DW, le club de l'auditeur.
La Guinée, son indépendance, mais aussi les femmes et le harcèlement sexuel notamment, sont au centre de cette édition du Club des auditeurs et internautes, animé par Mireille Drone, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel, sur les ondes de la DW. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et un grand bonjour particulier d'abord à tous ceux qui nous sont fidèles, comme Léonard de Sao Paulo au Brésil, Aimé de Cara au Togo, Jacques de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, Boubacar de Gao au Mali, Imelda d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Arnold de Ngaoundéré au Cameroun et Papineau de Kinshasa en RDC. Et puis nos meilleurs vœux à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire ces derniers jours, comme Meriem de Batna, Yassine de Tarf et Hakim de Bounou, tous les trois en Algérie, Laila de Casablanca au Maroc, Bewezima de Lomé au Togo, Gottfried de Dogbo au Bénin, Amadou de Dori au Burkina Faso, Jeff de Kisangani et de Pros de Nangui, tous les deux en RDC, ainsi que Dorothée de Kigali au Rwanda et puis Serge de Sancho au Cameroun. Le 28 septembre 1958, la Guinée disait non au général de Gaulle qui proposait la création de la communauté française pour maintenir des liens politiques entre la France et les pays africains en voie de décolonisation. Seulement voilà, la grande surprise, Ahmed Sékou Touré, le premier président de la Guinée, qu'il a dirigé de 1958 jusqu'à sa mort en 1984, a rejeté la proposition d'adhérer à cette communauté. C'est ainsi que la Guinée est devenue le premier pays indépendant d'Afrique noire française le 2 octobre 1958. Une histoire dont beaucoup de Guinéens sont fiers, comme Boniface de Conakry qui nous écrit « Je suis fier d'être Guinéen et le serai toujours. Un grand hommage à cet immortel héros national, feu le président Ahmed Sékou Touré. Et selon lui, un homme aussi digne, il n'y en aura probablement plus. » 60 ans de colonisation, 60 ans d'indépendance, une souveraineté dignement assumée sur la route infinie de l'histoire, estime encore Fodé Tassila qui souhaite bonne fête au vaillant et laborieux peuple de Guinée. Et Mamadi Diallo l'affirme, nous sommes très libres, même si nous sommes pauvres. Le président Sékou Touré ne s'est jamais trompé en nous donnant cette souveraineté. Bonne fête d'indépendance à la Guinée, écrit-il. Nombre d'entre vous, même en dehors de la Guinée d'ailleurs, disent être fiers de ce nom de Sékou Touré, comme Adama de Bamako au Mali, qui nous a laissé un message sur WhatsApp avec un bémol toutefois.
Ce qui m'inspire beaucoup de l'histoire de la Guinée, c'est tout d'abord la Guinée a été le premier pays africain noir à songer à son indépendance, être capable de dire non aux colonisateurs, ça c'est une fierté. Même s'il faut reconnaître que beaucoup reste encore à faire, c'est un pays vraiment qui a beaucoup de ressources, qui a beaucoup de potentialités économiques. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un pays qui, à la tête de la Guinée, il n'y a pas de dirigeants qu'il faut. Si je me permets de dire la chose, je dirais que les dirigeants qui sont à la tête aujourd'hui ne pensent seulement qu'à leur famille, qu'à leurs proches, qu'à leur intérêt personnel, mais pas au peuple guinéen. Je suis sûr, si aujourd'hui on parvenait vraiment à réélire des dirigeants vraiment compétents, qui ont le souci du peuple, qui sont soucis du développement du peuple guinéen, de l'avantage de la Guinée, je pense que si on parvient à faire ça aujourd'hui, la Guinée sera sur l'échelle mondiale en un clin d'œil de seconde, et ça c'est sans doute.
La Guinée avait pris de l'avance sur les autres pays francophones d'Afrique noire, observe Cardberry de Lomé au Togo, mais aujourd'hui elle se trouve dans le même panier que les autres pays d'Afrique francophone. Le courage de Sékou n'a pas trouvé de porteur, juste parce que le sentiment nationaliste n'a pas vraiment d'effet sur ceux qui ont bénéficié des faveurs françaises pour aller étudier en France, affirme-t-il. Ce sont ces mêmes intellectuels moulus en France qui sont revenus à charge et ont refait basculer la Guinée. La découverte de la France a été pour eux comme un paradis et il ne peut pas y avoir meilleur ailleurs. C'est avec cette mentalité que les intellectuels guinéens ont brisé l'élan de la Guinée, assure Cardberry. Ibrahima de Mamou en Guinée trouve aussi que c'est un gâchis pour ce vaillant peuple de Guinée. Quand on est nationaliste, on doit aimer son peuple, le protéger, lui garantir un minimum de sécurité, l'aider à s'instruire, libérer les gens dans leurs différentes activités, protéger les cadres et les hommes d'affaires pour la création de la richesse. Or, à titre d'exemple, mon pays n'a pas connu le téléphone avant l'arrivée des réseaux GSM et à l'heure actuelle, la RTG ne couvre pas un quart du pays, déplore Ibrahima. D'autres sont critiques ou dubitatifs, même vis-à-vis du père de l'indépendance. Comme Abdourahmane Bella, il remarque sur Twitter que Sékou Touré est aussi le père de l'ethno-stratégie en Guinée. Sa notion de traître continue à hanter le pays, ce qui laisse cet internaute pensif. Adama Denise Diaby est-elle une Guinéenne engagée? Elle se bat pour le développement de la société et souhaite que les conditions de vie des Guinéens et des femmes, tout particulièrement, s'améliore. Elle était de passage cette semaine dans nos studios de Bonn en Allemagne. Mon collègue Rémi Mallet en a profité pour l'interroger sur sa vision de la Guinée. On l'écoute juste après ces quelques notes de musique de Guinéennes battantes d'ailleurs, les Amazones de Guinée.
Bonjour, je suis Denise Gabi, réalisatrice à la RTG et actuellement en service à la Direction générale du Centre de formation et de perfectionnement en technique de communication. Et je suis aussi la vice-présidente du comité communal de lutte contre les violences basées sur le genre de la commune de Matoto, en République de Guinée.
Ok, donc parlez-nous alors de votre projet.
Actuellement, je travaille sur un projet qui consiste à lutter contre toute forme de violence basée sur le genre, avec le projet JHP Go. Et donc ce projet, pour un départ, a d'abord identifié au niveau de chaque commune de la ville de Conakry des éducateurs communautaires qu'on a formés ensuite sur la question des violences basées sur le genre, pour qu'à leur tour, qu'ils puissent être des communicateurs pour aller sensibiliser la communauté sur la question des VBG, pour qu'il y ait un changement de comportement.
Aujourd'hui, quelle est l'ampleur en fait, de la violence basée sur le genre? Combien de femmes aujourd'hui sont affectées?
Bon, je ne peux pas donner exactement les chiffres, mais ce qui reste clair, les femmes sont confrontées à beaucoup de formes de violence dans nos communautés. Nous avons les violences conjugales, où les femmes sont souvent soumises par des considérations culturelles et religieuses, les construits sociaux. Et souvent, nous constatons également aussi qu'au niveau des communautés, les femmes ont aussi d'autres problèmes. Elles sont confrontées à des situations, par exemple, financières.
Vous dites qu'elles sont confrontées à des situations financières difficiles. Il y a aussi les problèmes de culture, il y a des problèmes aussi religieux aussi qui font que c'est ce qui explique, hein, selon vous, que les femmes soient traitées de telle manière, en fait.
Comme je le disais tout à l'heure, les femmes sont confrontées souvent à toutes les formes de violence. Quand vous venez, par exemple, au niveau des violences conjugales, où la femme, dès sa naissance, reçoit une éducation culturelle, religieuse, où on lui fait comprendre qu'elle est inférieure par rapport au sexe masculin. Parce que déjà, à bas âge dans la famille, on éduque déjà la jeune fille comme pour dire que tu dois être soumise à ton mari, une fois mariée. Et voilà les tâches qui te reviennent, toi, en tant que femme. Donc, au niveau de la famille, déjà, à bas âge, on fait comprendre déjà à la femme qu'elle est inférieure à l'homme. Et donc, cette éducation, nous grandissons avec ça. Et finalement, ça nous met dans une position d'infériorité. Alors, maintenant, amener aujourd'hui ce changement de comportement pour faire comprendre à cette femme que oui, bien qu'elle soit femme, mais elle a aussi des droits. Elle a aussi certaines responsabilités. Et pour qu'elle puisse comprendre ses droits et ses rôles, il faut lui faire comprendre. Il faut lui apprendre ses droits. Parce que ce sont des choses que les femmes ne connaissent pas. C'est ce qui fait qu'elles sont confrontées à ces petits problèmes de défendre leur cause, leurs droits.
Alors, si vous aviez un conseil à donner à une fille à qui on dit voilà, qu'elle doit faire certaines tâches et le garçon, par exemple, lui, il peut faire d'autres, quel conseil donneriez-vous à une fille qui se trouve dans une situation où elle reçoit une éducation ou dans laquelle on lui dit qu'elle est inférieure, par exemple, au garçon?
Oui, le conseil que je vais donner à une telle fille, c'est de lui faire comprendre que cette éducation ne sont que des construits sociaux, mais que rien ne prouve, rien ne dit que ce qu'on lui a donné comme éducation, que c'est ça en fait la réalité. Et que donc, elle doit d'abord se détacher de cette éducation qu'elle a reçue dès à bas âge. Qu'elle doit maintenant se dire qu'elle est, disons, l'égale aussi de l'homme. Et que donc, autant que l'homme a la possibilité d'aller faire des études, qu'elle aussi, qu'elle a ses droits d'aller dans les grandes universités, dans les grandes écoles, pour se former, s'éduquer. Et donc, du moment où elle a cette possibilité de fréquenter les mêmes universités, les mêmes écoles que ces hommes, elle a aussi les mêmes droits de traitement en termes de poste, par exemple, de responsabilité, en termes de respect, en termes de considération, etc., etc.
Mais on sait aussi qu'en Afrique, hein, souvent, c'est la femme qui reste à la maison et l'homme qui part travailler. Mais ce sont les femmes, en fait, qui éduquent aussi ces filles. Alors, on n'arrive pas bien à comprendre. Alors, quel message avez-vous aux femmes qui éduquent, en fait, d'autres femmes à adopter un sentiment d'infériorité envers les garçons?
Effectivement, comme je l'ai dit, en Afrique, c'est souvent les mères de famille qui ont beaucoup plus la responsabilité de l'éducation de la jeune fille. Donc, ce que nous disons aujourd'hui à nos mères, nos mamans, dans les communautés, c'est de leur faire comprendre, nous leur disons qu'ils doivent éduquer les enfants au même niveau. C'est-à-dire qu'ils doivent recevoir les mêmes traitements, les mêmes éducations, qu'il n'importe pas de différence entre la jeune fille et le jeune garçon. Qu'il n'y a pas à dire que, par exemple, que seule, par exemple, la jeune fille doit, par exemple, disons, faire la lessive ou bien balayer, que le jeune garçon n'a pas le droit de balayer ou de faire la lessive. C'est-à-dire, il faut qu'on essaie de faire comprendre que vraiment, qu'on soit femme ou qu'on soit homme, que c'est la même chose.
J'imagine que votre combat ne doit pas être facile dans une société patriarcale comme celle de la Guinée.
Ce n'est pas un combat très facile parce que souvent, quand nous allons même dans certaines communautés pour, par exemple, leur dire que l'homme et la femme, ils ont les mêmes droits, dans certaines communautés, on comprend cela très mal. Parce qu'il y a certaines ethnies qui n'accepteront jamais, qui ne peuvent pas accepter que, par exemple, que la femme soit l'égale de l'homme. C'est des choses, c'est des concepts qui sont très mal vus dans certaines communautés. Mais ce n'est pas une raison aussi pour nous de ne pas continuer le combat. Nous devons continuer le combat parce que nous voulons aujourd'hui que les femmes puissent vraiment bénéficier de tous les droits du respect et de la considération, qu'elles cessent d'être violentées à tous les niveaux. Que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau familial, que ça soit dans la société. Et les hommes aussi, c'est vrai, sont souvent aussi violentés, on reconnaît. Mais le taux de violence enregistré est beaucoup plus élevé au niveau des femmes qu'au niveau des hommes.
Et ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce projet ?
Ça me fait exactement 3 ans.
Et depuis 3 ans que vous avez débuté ce projet, est-ce que vous avez des résultats concrets, des résultats qui vraiment vous ont donné une certaine satisfaction?
Effectivement, nous avons obtenu des résultats. Parce que depuis que nous avons commencé ce combat, nous avons commencé d'abord par la sensibilisation au niveau des quartiers, à la base, à l'intérieur du pays. Et ensuite, nous avons utilisé les médias. Nous avons fait des sketchs de sensibilisation sur ces différentes formes de violence basées sur le genre. Et nous sommes allés aussi dans les écoles et les universités, sensibiliser les élèves et étudiants sur ces différentes questions. Et donc, suite à ces différentes activités que nous avons menées, nous avons commencé à enregistrer les résultats parce que maintenant, il y a des gens qui osent maintenant dénoncer. Alors qu'avant, on n'osait pas dénoncer.
Donc la parole est un peu libérée, c'est ce que vous voulez dire?
Voilà, la parole est un peu libérée maintenant. Parce qu'on nous appelle, on vient pour nous dire, voilà, j'ai été violée. Ou bien, voilà, on veut me forcer au mariage, les mariages précoces, les mariages forcés. Donc tout ceci se faisait à l'anonymat. Mais aujourd'hui, maintenant, quand une fille est à la pression de la famille, qu'on veut donner un mariage précocement, ou bien on veut la forcer, il y a aujourd'hui des voies de recours, donc nous donnons ces voies de recours pour que ces personnes victimes puissent automatiquement alerter ces voies de recours afin de stopper cette violence dont elle subit. Donc aujourd'hui, il y a un bon résultat dans ce sens parce que nous recevons tous les jours presque maintenant des cas de violence à tous les niveaux. Et ces structures maintenant qui sont chargées de la protection de ces formes de violence se mettent automatiquement en marche pour essayer de résoudre le cas des différentes formes de violence que nous enregistrons. Les gens maintenant osent dénoncer ces situations.
À l'ombre de nos drapeaux déployés, bien gravés dans le cœur de nos enfants, la flamme est de l'unité pour que vive notre Afrique. À l'ombre de nos drapeaux déployés, bien gravés.
Vous avez dit que vous appuyez sur les médias pour pouvoir aussi faire passer vos messages dans vos campagnes. Quelle est la place de la femme journaliste aujourd'hui en Guinée, dans les médias? Quel rang occupent les femmes aujourd'hui en Guinée?
Les femmes aujourd'hui occupent vraiment un grand rang au niveau des médias. Parce que vous allez partout aujourd'hui, dans les différents organes, vous verrez qu'il y a suffisamment, il y a des femmes.
Mais la RTG, à la tête de la RTG, ce n'est pas une femme. Hein.
C'est vrai qu'à la tête de la RTG, ce n'est pas une femme qui est là-bas. Et c'est vrai que la question du respect du genre est un problème encore au niveau des différents médias. Mais il y a quand même un grand changement. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les différents médias, vous allez rencontrer beaucoup de femmes. Aujourd'hui, les femmes vraiment s'intéressent à ce métier. Les femmes s'impliquent aujourd'hui. Les femmes sont en train d'aujourd'hui imposer leur place au niveau des médias.
Et c'est-à-dire comment elles font pour imposer leur place?
Elles sont en train de s'affirmer à travers le travail, à travers le professionnalisme. Et c'est vrai, souvent, elles sont confrontées à beaucoup de difficultés, certes. Mais, en tout cas...
Lesquelles difficultés?
Par exemple, question par exemple, d'harcèlement sexuel et les questions de poste de responsabilité et la répartition des sujets. Parce que souvent, il y a des sujets, par exemple, à traiter. Et quand il s'agit, par exemple, des questions de mamaya, des questions d'affaires sociale. On envoie beaucoup plus les femmes vers ces sujets que les sujets, par exemple, politiques, les sujets beaucoup plus difficiles. Mais aujourd'hui, il y a des femmes au niveau des médias qui sont en train de se battre pour vraiment aussi traiter des sujets politiques, des sujets plus compliqués qu'on pense que c'est seulement les hommes qui doivent traiter ces genres de sujets. Donc, moi, je dis que les femmes, aujourd'hui, en Guinée, au niveau des médias, sont en train de s'affirmer petit à petit.
Vous avez parlé du harcèlement sexuel. Ici, à la Deutsche Welle, il y a une charte qui s'appelle une charte qui définit en fait, le respect entre les hommes et les femmes et qui vise aussi à protéger les femmes qui sont victimes de harcèlement. Est-ce qu'on trouve en fait ce genre d'initiative dans des médias de presse en Guinée ou bien quelle est la réponse aussi face au harcèlement dans les médias, si ça existe aussi chez vous, comme vous l'avez dit?
La question du harcèlement sexuel, ça existe à tous les niveaux. Et je crois qu'il y a 3 à 4 mois, nous avons organisé des sessions de formation sur la question sécurité et harcèlement sexuel des femmes journalistes. Et ceux qui avaient pris part à ces sessions, ces différentes sessions, ont parlé de ces problèmes. Les femmes sont confrontées à cette question. Mais souvent, elles ont des difficultés d'en parler. Parce que vous savez, le problème d'harcèlement, ce n'est pas facile de le prouver. Et ou bien, quand vous en parlez, soit elles ont peur de se faire licencier parce que vous êtes victime de ces choses souvent avec la hiérarchie ou entre collègues. Et quand vous n'avez pas de preuves palpables pour montrer qu'effectivement vous êtes victime de harcèlement sexuel, il est difficile de vous croire. Il est difficile de vous faire entendre. Et donc, souvent, les femmes ont peur et elles restent dans leur petit coin. Elles en souffrent, elles essaient de trouver les moyens, comment pouvoir mettre fin à ce problème.
Pourtant, vous avez dit que les langues se délient. On ne comprend pas alors pourquoi elles souffrent et se taisent. C'est qu'il y a toujours un problème encore. Il y a des points qui sont sans réponse. Hein.
Oui, quand je dis que les gens dénoncent, ça ne veut pas dire que c'est à 100%. Il y a encore des réticences. Et c'est justement nous, notre combat. Nous voulons qu'il n'y a plus de résistance. Nous voulons que vraiment, dès qu'il y a un cas, que les gens puissent oser directement dénoncer et qu'ils ne s'attendent pas, par exemple, à des licenciements ou bien à des renvois ou bien à des sanctions. Non.
Mais c'est le risque. Hein. Vous, en tant que personne qui dirige un projet, qu'est-ce que vous avez, dans vos mains? Est-ce que vous avez des mesures d'accompagnement aussi pour ces femmes-là qui aussi ont peur de dénoncer?
En fait, comme je vous ai dit, il y a des voies de recours. Quand c'est par exemple la question du harcèlement sexuel que vous venez dénoncer, il y a une police qui est là, qui protège ces femmes. Et donc, l'auteur est aussitôt interpellé. Et cette personne victime qui vient le dénoncer, si elle est par exemple dans un organe de médias, nous avons la charge de protéger cette femme. Parce que le fait d'avoir dénoncé et que par la suite, elle est licenciée ou bien il y a une sanction qui suit, si nous ne protégeons pas cette femme pour ne pas qu'elle soit victime de tout ce que je viens de dire, ça ne donnera pas courage à d'autres femmes de venir dénoncer. C'est un droit qu'elle a réclamé. Et donc, ce droit, nous devons lui donner cela. Nous devons lui assurer cette protection. Parce que du moment où elle a déjà eu le courage de venir vers nous, dénoncer, c'est qu'elle a une confiance en nous. Elle pense se sentir en sécurité, elle pense se sentir protégée. Donc, cette protection-là, nous devons lui assurer ça.
On va parler d'un tout autre sujet. Votre pays fête ses 60 ans d'indépendance. Est-ce que vous pensez qu'il est indépendant pour cela?
60 ans d'indépendance, c'est vrai, c'est beaucoup. Mais je dirais que oui, nous sommes indépendants, puisque de toutes les façons, nous jouissons de cela depuis des années. Mais vous savez, la question d'indépendance, peut-être nous avons été libérés des colons, mais est-ce que nous avons réellement cette indépendance?
Vous semblez dire non.
Personnellement, moi, je pense que du moment où déjà, jusqu'à présent, nous avons encore une certaine pression de l'extérieur, je pense que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore totalement libérés. Nous n'avons pas encore totalement cette indépendance comme nous le voulons. Ça n'engage que moi. Cette indépendance, moi, je pense que nous ne l'avons pas encore totalement acquise. Parce que quand nous prenons nos dirigeants politiques, le pouvoir en Afrique, il est souvent commandé par l'extérieur. Et ça fait que nos dirigeants, souvent, n'ont pas cette liberté de faire tout ce qu'ils veulent. En fait, nous avons notre indépendance. Mais nous n'avons pas encore l'indépendance économique. Du moment où on n'a pas encore notre indépendance économique, ça nous met dans des positions de faiblesse. Nous sommes toujours à la recherche de cette économie. Nous tendons toujours la main à l'extérieur. Et donc, ça nous amène souvent à des situations où nous sommes obligés de faire des concessions, de nos richesses, afin de bénéficier de prêts, par exemple. Même si le président a la volonté de travailler, de développer, d'amener le pays à une émergence, il est confronté souvent à des problèmes économiques, comme je vous ai dit. Et donc, c'est pourquoi il est important que nous-mêmes, qu'on essaye de travailler, développer nos richesses, développer des infrastructures dans nos pays, créer de l'emploi, former notre jeunesse, éduquer notre jeunesse, pour que vraiment nous puissions nous-mêmes créer des conditions de vie, améliorer les conditions de vie de nos populations, créer toutes les conditions qui peuvent rehausser le niveau de vie des Guinéens.
Merci.
C'était donc Denise Diaby, journaliste, réalisatrice, qui se bat aussi contre les violences basées sur les genres. Elle était de passage dans nos studios de la radio à Bonn. Souleymane Ba affirme, lui, de son côté sur Twitter, que 60 ans d'indépendance de Guinée égale 60 ans de retard. Au regard de toutes les ressources que possède la Guinée, ce pays devrait être comme celui de l'oncle Sam. Après tous ces événements malheureux, notre pays a besoin d'une bonne justice et réconciliation pour pouvoir avancer, estime Souleymane. Voilà, vos commentaires concernant cette émission sont bien sûr les bienvenus. Et si vous voulez me proposer un sujet qui vous interpelle, mon adresse mail c'est mireille.drone@dw.com. Vous pouvez aussi m'écrire via WhatsApp et pour vous inscrire gratuitement, vous tapez dw.com/WhatsApp. Vous pouvez non seulement nous y laisser des messages, parler ou écrire, mais en plus vous recevrez nos informations. Et si vous êtes plutôt branché sur Facebook, eh bien notre adresse c'est dw.afrique. Enfin, pour retrouver les émissions du Club des auditeurs et internautes, comme tous les programmes du service en français de la DW, sur notre site internet, une adresse dw.com/français, sans cédille bien sûr. À très bientôt de vos nouvelles, j'espère. Merci de votre fidélité et excellent week-end à tous. Au revoir. Samba ye ba ya juru tige.